Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Je suis Céline Guerrero, enseignante et formatrice Montessori. Chaque semaine, je vous livre des outils concrets pour votre classe pour que vous puissiez contribuer au plein épanouissement de vos élèves et à votre plein épanouissement. Dans ce podcast, vous allez plonger au cœur de la pédagogie Montessori et de la neuroéducation et trouver des outils pour votre classe. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés avec vos amis ou collègues. Et depuis peu, vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant pour 5 euros par mois. Le lien est dans les notes de chaque épisode. Pour ce 119e épisode, je vous propose de plonger dans le livre d'Angeline Stoll-Lillard, Montessori, une révolution pédagogique soutenue par la science. Alors, dans ce livre, Angeline Stoll-Lillard nous détaille les 9 principes de l'éducation Montessori. Dans les premières pages, en fait, elle en parle rapidement, mais après, ça va être la fondation, enfin, elle va détailler dans chaque chapitre ces 9 principes. Donc moi, je vous propose de vous les lire, tout simplement. Et je pense, voilà, si vous n'avez encore jamais lu son livre, ça vous donnera forcément envie de vous plonger dedans. C'est un livre qui ne se lit pas du tout comme un roman. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas réussi à le lire d'une traite. Je le lisais petit morceau par petit morceau. Et j'y reviens souvent quand je me pose une question. Parce que voilà, c'est vraiment un livre très riche, très dense. Et je voulais juste vous prévenir que ce n'est pas possible de le lire comme un roman. Alors, juste avant de commencer, si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous avez vu la nouvelle direction que je veux donner au podcast. Donc, mon but, en fait, c'est de partager une interview d'experts par mois et pour les autres épisodes, de répondre à vos questions. Voilà, on peut soit vous me l'envoyer par écrit et j'essaye d'y répondre toute seule, mais ça sera plus riche et plus intéressant si vous êtes avec moi, on se connecte en ligne, en visio. Et vous me posez votre question, j'essaie d'y répondre, je peux vous reposer d'autres questions pour mieux comprendre le contexte. Donc voilà, en attendant de recevoir vos premières questions, pour l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir je voudrais vous faire découvrir les 9 principes de l'éducation Montessori selon Angeline Stoll-Lillard. Donc les 9 principes sont mouvement et cognition, le choix, les fonctions exécutives, l'intérêt, éviter les récompenses extrinsèques, apprendre de et avec des pairs, apprendre avec le contexte, les manières de faire des adultes et celles des enfants, l'ordre de l'environnement et l'ordre de l'esprit. Alors c'est parti, je vous lis déjà les 9 principes qu'elle aborde. Donc le premier, c'est le mouvement et la cognition sont intimement liés et le mouvement peut améliorer la réflexion et l'apprentissage. Le deuxième, c'est l'apprentissage et le bien-être sont optimisés lorsque les personnes ont le sentiment de contrôler leur vie. Le troisième, c'est la capacité de diriger son attention de manière soutenue et concentrée favorise une série de développements positifs. Cette capacité s'exerce. Le quatrième, c'est les personnes apprennent mieux lorsqu'elles sont intéressées par ce qu'elles apprennent. Le cinquième, le fait d'introduire un lien intrinsèque entre une activité et des récompenses, telles que de l'argent pour la lecture ou de bonnes notes lors d'évaluation, a un impact négatif sur la motivation à s'engager dans cette même activité lorsque la récompense est absente. Le sixième, les dispositifs qui favorisent la collaboration peuvent être très propices à l'apprentissage. Le septième, l'apprentissage est souvent plus profond et plus riche quand il est mené dans un contexte porteur de sens plutôt que dans un cadre abstrait. Et le huitième, certaines formes d'interaction avec les adultes sont favorables à l'optimisation des résultats des enfants. Le neuvième, l'ordre dans l'environnement est bénéfique pour les enfants. Donc là, je vais vous lire quelques paragraphes à chaque fois pour chaque principe, mais ça va être quand même assez dense. Donc comme je l'ai fait dans les derniers épisodes, je crois que je vous l'ai proposé. Non, c'est dans celui qui n'est pas encore publié. Je vous propose de faire le 3-2-1. Donc le 3-2-1, ça va être... je vous invite à prendre des notes quand vous écoutez l'épisode et à noter pour qu'à la fin, en fait, vous puissiez faire le 3-2-1. Et noter 3 choses que vous avez découvertes grâce à cet épisode, découvertes ou redécouvertes, 2 choses sur lesquelles vous aimeriez poursuivre vos recherches et vous aimeriez approfondir. et une chose qui va déjà avoir un impact dans votre vie professionnelle. Alors c'est parti pour mouvement et cognition. Le premier principe est que le mouvement et la cognition sont intimement liés. Cette observation a du sens. Nos cerveaux ont évolué dans un monde où nous bougeons et agissons, et non dans un monde où nous sommes assis à des bureaux en train de considérer des abstractions. Maria Montessori a observé que la pensée semble s'exprimer avec les mains avant de pouvoir l'être avec des mots, une idée que Piaget semble partager. Chez les jeunes enfants, expliquait-elle, penser et se déplacer relèvent d'un unique processus. Piaget a limité cette revendication identitaire à la période sensorimotrice, tandis que le docteur Montessori, comme les récents travaux en psychologie le confirment, percevait qu'il y avait une étroite relation entre les deux processus, se poursuivant au-delà de l'âge de 2 ans. C'est à partir de cette observation qu'elle a développé une méthode d'éducation en grande partie fondée sur la manipulation d'objets. Au cours de ces dernières années, une fascinante recherche a été menée sur le lien qui existe entre le mouvement et la cognition, ce qui reflète bien les idées que le docteur Montessori avait sur l'importance du mouvement dans la construction de la pensée. Les conclusions de ces recherches indiquent bien que l'éducation devrait, pour favoriser un apprentissage optimal, impliquer davantage le mouvement. Alors du coup, je pense que ça serait intéressant que vous vous posiez plusieurs questions. Je vais essayer de faire ça après chaque principe. Comment encouragez-vous le mouvement de vos élèves dans votre classe? Est-ce que vos élèves apprennent par le mouvement, avec du matériel concret? Voilà, je vous laisse y réfléchir. Alors, deuxième principe, le choix. Le deuxième principe est celui du libre choix. Maria Montessori a noté que les enfants excellaient lorsqu'ils avaient le choix et pouvaient contrôler leur environnement. Elle concevait le développement comme un processus à travers lequel l'enfant est rendu de plus en plus apte à devenir indépendant au sein de son environnement. Bien que les bons programmes Montessori soient ceux qui imposent des limites à cette liberté, les enfants Montessori sont libres de prendre beaucoup plus de décisions que ne le sont les enfants dans les écoles classiques. Ils choisissent ce sur quoi ils vont travailler, combien de temps ils vont y consacrer, et avec qui ils souhaitent travailler, etc. La recherche en psychologie révèle que le fait d'octroyer plus de liberté et de choix, au sein d'un environnement soigneusement préparé et ordonné, permet de meilleurs résultats sur les plans psychologiques et cognitifs, comme l'évoque le troisième chapitre. Alors la question que j'aurais envie de vous poser, c'est quelle liberté ont vos élèves? Que peuvent-ils choisir dans une journée? Choisissent-ils leur matériel, les enfants avec qui ils vont travailler, l'endroit où ils vont s'installer, le temps consacré à une activité? Et j'aurais aussi envie de vous inviter à vous poser la question. Vous, maintenant, en tant qu'adulte, dans votre activité professionnelle, quel choix vous avez à faire? Enfin, combien de choix vous devez faire chaque jour? Parce que moi, j'ai l'impression que la vie, elle est faite de choix, en fait. Donc, je vous invite à penser, en fait, à vous, à votre expérience, sur les choix que vous devez faire chaque jour dans votre vie d'adulte. Alors, le troisième principe, c'est sur les fonctions exécutives. Le troisième principe est que le développement du contrôle exécutif, notamment la capacité de focaliser et de maintenir son attention, est la clé d'autres développements importants. Le docteur Montessori a rapidement remarqué à l'école de San Lorenzo que lorsqu'un enfant était complètement concentré sur un bloc de cylindre de bois, on pouvait soulever la chaise sur laquelle l'enfant travaillait sans que sa concentration en soit troublée. Elle se rendit compte que le développement de cette capacité de concentration s'associait à des changements dans la personnalité qu'elle appelait « normalisation ». Ce principe est nouvellement abordé par la présente édition, car ce n'est qu'au cours des 10 dernières années que la recherche s'est penchée sur ce sujet, aussi bien du point de vue du développement psychologique qu'à travers la recherche des effets positifs des pratiques méditatives. Ceux-ci sont exposés au chapitre 4. Alors, là, je vous invite à vous poser la question par rapport à l'attention. Protégez-vous l'attention, l'attention, la concentration de vos élèves? Vos élèves ont-ils la possibilité voilà, de travailler et de rester attentif longtemps sur la réactivité? Ou est-ce que vous les interrompez? Est-ce qu'ils vont être interrompus par d'autres enfants, d'autres adultes? Voilà, je vous laisse y réfléchir. Alors, le quatrième principe, c'est l'intérêt. Le quatrième principe est que les meilleurs apprentissages ont lieu lorsqu'il y a de l'intérêt. Ce dernier peut être plus personnel, venant de l'intérieur, comme lorsqu'un individu porte un intérêt constant aux coccinelles ou aux chiens, ou lié à une situation particulière, venant de l'extérieur, comme quand on s'intéresse à quelque chose en fonction d'un événement ou d'une activité auquel on est exposé. Maria Montessori suscitait l'intérêt en concevant du matériel avec lequel les enfants semblaient vouloir interagir. Elle a également formé les enseignants Montessori à donner des leçons de manière à inspirer les enfants, en donnant juste assez d'informations pour éveiller la curiosité et en théâtralisant leur présentation, en particulier auprès des enfants de maternelle. L'éducation Montessori tire également profit des intérêts qui apparaissent régulièrement lors des étapes du développement, tels que l'intérêt marqué des enfants pour l'apprentissage du langage dans les années préscolaires. Le docteur Montessori a noté que les jeunes enfants semblent poussés à étiqueter tous les objets de leur environnement. C'est ainsi qu'ils enregistrent beaucoup de vocabulaire en classe de maternelle. L'éducation Montessori tire également profit des intérêts individuels. Les enfants s'adonnent à l'apprentissage de ce qui les intéresse personnellement, non pas d'une manière qui exclurait de larges pans du programme, mais d'une manière compatible avec les conditions que nous considérons comme optimales au meilleur apprentissage possible. Au lieu de mémoriser des points choisis par un corps législateur lointain, les enfants des écoles élémentaires Montessori rédigent et présentent des exposés sur ce qui les fascine, tout en établissant des liens avec le programme. Le matériel Montessori et les leçons de base fournissent un noyau dur à l'apprentissage à travers les différents sujets du programme. Mais l'imagination de chaque enfant est investie par les différents chemins d'apprentissage que celui-ci emprunte au-delà de ce noyau. Ces questions sont abordées au chapitre 5. Alors là, la question que j'aimerais que vous vous posiez, c'est par rapport à vous, en fait, par rapport à vous, votre intérêt. Est-ce que vous arriveriez à apprendre le chinois alors que c'est l'anglais que vous avez envie d'apprendre? Ou est-ce que vous arriveriez à apprendre à jouer de la guitare alors que c'est le piano vous qui vous intéresse? Le principe suivant, c'est éviter les récompenses extrinsèques. Maria Montessori considérait les récompenses extrinsèques, tels que les bons points et les notes, comme des éléments perturbateurs pour la concentration d'un enfant. Les moments de concentration soutenus et intenses sont au cœur de l'éducation Montessori. Elle raconte la façon dont les enfants pouvaient répéter les mêmes activités des dizaines de fois de suite, comme placer des cylindres de bois dans les emplacements correspondants, avec une capacité de concentration qu'elle-même n'aurait pas imaginé qu'il était possible d'atteindre. En maternelle, les enfants peuvent se concentrer de manière intense pendant des périodes de 30 minutes d'affilée. En classe élémentaire, ils peuvent travailler sur un projet, comme la création d'un graphique, pendant une grande partie de la journée, voire plusieurs jours de suite. Cela est dû au fait que dans l'éducation Montessori, les récompenses sont internes, c'est-à-dire qu'elles viennent de l'enfant lui-même. Beaucoup de recherches montrent que l'intérêt porté à une activité que l'on apprécie, comme apprendre semble l'être pour la plupart des enfants, reste constant lorsqu'on évite d'avoir recours à des récompenses extrinsèques, comme exposé au chapitre 6. Alors, du coup, la question que j'aimerais que vous vous posiez, si vous êtes en maternelle, en élémentaire, est-ce que vous récompensez, entre guillemets, le travail des enfants avec des smileys, avec des notes, avec des jugements de valeur? Le principe suivant, c'est apprendre de et avec des pairs. À l'école conventionnelle, l'enseignant donne des informations aux enfants et les enfants apprennent peu les uns des autres et rarement directement de la manipulation de matériel, sauf à partir de textes qui informent souvent les enfants au lieu de les aider à découvrir. Bien que de plus en plus développée, la collaboration est encore rare dans les classes élémentaires conventionnelles. Les évaluations, les problèmes et les exercices sont la plupart du temps, quand ce n'est pas tout le temps, proposés de façon individuelle. En revanche, dans les classes maternelles conventionnelles, les enfants jouent le plus souvent en groupe. L'éducation Montessori propose l'inverse et correspond mieux à ce que les développementalistes savent des enfants. Les enfants des classes maternelles sont plus enclins à jouer côte à côte, mais pas nécessairement ensemble, tandis que les enfants des classes élémentaires sont intensément sociaux. Dans les classes maternelles Montessori, les enfants peuvent souvent travailler seuls, puisqu'ils en ont le choix. Mais dans les classes élémentaires, ils le font rarement. Ils enrichissent leurs connaissances au sein de groupes qu'ils forment spontanément et sont les auteurs de productions allant de simples textes à des dioramas, des tableaux ou des pièces de théâtre, des chronologies ou encore des partitions musicales. Ils sortent de la salle de classe en petits groupes, spontanément constitués pour interviewer des personnes à l'extérieur de l'école ou pour visiter des musées ou des entreprises qui sont pertinents pour tel ou tel projet en cours. Cela est toujours suscité par l'intérêt que les enfants portent sur le sujet en question. Récemment, j'ai entendu un enfant Montessori de 9 ans interrogé sur ce qui se passe dans ces petits groupes d'apprentissage lorsqu'un enfant comprend mieux que les autres. Préoccupation qui découle du modèle conventionnel individualiste selon lequel un enfant seul pourrait faire la majeure partie du travail. Répondre, nous nous aidons les uns des autres. Le chapitre 7 traite de la recherche menée sur ce qui se passe lorsque les élèves travaillent ensemble pour apprendre, au lieu de travailler comme des individus qui s'efforcent d'obtenir de meilleures notes que les autres. Alors là, du coup, j'ai envie que vous vous posiez la question, selon si vous êtes en maternelle ou en élémentaire, comment est-ce que je force mes élèves à travailler ensemble? Est-ce que je leur donne la possibilité de travailler ensemble? Je vous invite à vous poser toutes ces questions. Le principe suivant, c'est apprendre avec le contexte. Dans le système scolaire conventionnel, les enfants apprennent parfois sans comprendre comment ce qu'ils apprennent peut s'appliquer à autre chose qu'aux évaluations. Le docteur Montessori a réagi à cela en créant un ensemble de matériel et un système d'apprentissage permettant à chaque enfant d'appliquer et de comprendre le sens de ce qu'il apprend. Plutôt que d'apprendre à partir de ce que les enseignants et les textes disent, les enfants Montessori apprennent en faisant. Au lieu de se contenter d'écouter et d'écrire, parce qu'ils sont actifs, leurs apprentissages se font dans le contexte d'action et avec des objets. Par exemple, comme décrit précédemment, les enfants des classes élémentaires sortent de leur classe et se rendent dans le monde extérieur pour poursuivre leurs intérêts. Un petit groupe d'enfants qui s'intéresse au pont, par exemple, peut choisir de rencontrer un ingénieur local qui leur expliquera comment les ponts sont conçus. Cette approche, parfois appelée « cognition en situation », reflète un mouvement éducatif qui va de pair avec les tendances actuelles de la psychologie culturelle, de l'apprentissage et de la façon dont les individus apprennent en participant à leur culture. Les preuves concernant la validité de cette approche sont examinées au chapitre 8. Alors là, par rapport au contexte, je vous invite à vous poser la question si ce que vous proposez à vos élèves a du sens. Est-ce que c'est quelque chose qui est relié à un contexte? Est-ce qu'ils se projettent en fait en se disant à quoi cette connaissance pourra bien leur servir? Et je vous invite aussi à vous poser la question par rapport aux sorties. Est-ce que quand vous faites une sortie en élémentaire, c'est vous qui choisissez la sortie, c'est vous qui choisissez ce que vous allez visiter, ou est-ce que vous vous basez sur les intérêts des enfants? Alors, le huitième principe, c'est les manières de faire des adultes et celles des enfants. Les recommandations du docteur Montessori sur la façon dont les enseignants doivent interagir avec les enfants étaient en avance sur les recherches qui eurent lieu ultérieurement au sujet de la parentalité et de l'enseignement. Lorsque les adultes fixent des limites claires et libèrent les enfants dans le cadre de ces limites, répondant ainsi aux besoins des enfants tout en maintenant des attentes élevées, ceux-ci montrent une grande maturité, réussissent, font preuve d'empathie, entre autres qualités appréciables. Les écoles conventionnelles ont parfois commis une erreur en étant trop autoritaires, avec la consigne du « fais-le parce que c'est comme ça », une attitude qui ne se traduit pas par des effets bénéfiques sur les résultats des enfants. Lorsque les écoles progressistes échouent, c'est parfois parce qu'elles remplacent l'autoritarisme centré sur l'enseignant de nombreuses écoles conventionnelles par une permissivité trop extrême, trop centrée sur l'enfant. Maria Montessori recommandait une troisième voie qui correspond à ce que l'on appelle la parentalité ferme et qui donne les meilleurs résultats chez l'enfant. Ces conseils aux enseignants résultent des bonnes pratiques dans d'autres domaines. Cette problématique de recherche est évoquée dans le chapitre 9, intitulé « Les styles d'interaction des adultes et leurs conséquences chez l'enfant ». Alors là, j'ai envie de, que vous vous posiez la question sur la relation que vous entretenez avec vos élèves. Est-ce que des fois vous leur imposez vous leur imposez des choses parce que c'est vous l'adulte, ou est-ce que vous êtes dans une relation plus empathique, tout en ayant un cadre, hein, bien sûr. Je vous invite à vous questionner sur votre posture. Et le dernier principe, c'est l'ordre de l'environnement et l'ordre de l'esprit. Les salles de classe Montessori sont très organisées, à la fois physiquement, c'est-à-dire dans leur agencement, et conceptuellement, c'est-à-dire dans l'utilisation progressive du matériel. Cette organisation peut parfois surprendre. Elle semblait pointilleuse, voire obsessionnelle et compulsive. Pourtant, la recherche en psychologie suggère que l'ordre est très utile pour l'apprentissage et le développement, et que le docteur Montessori a vu tout à fait juste en créant des environnements très structurés dans les écoles. Les enfants ne se comportent pas aussi bien dans des environnements moins ordonnés. Le chapitre 10 passe en revue les recherches sur l'ordre et ses effets sur les enfants. Il analyse également l'impact neurologique potentiel de la présentation de séquences ordonnées de matériel destinées à affiner les sens. Alors là, j'ai envie que vous posiez des questions par rapport à l'ordre, à la fois l'ordre dans votre classe et l'ordre dans la présentation du matériel ou des activités que vous proposez à vos élèves. Est-ce que cet ordre est réfléchi? Donc voilà, je voulais vous partager aujourd'hui donc ces 9 principes issus du livre d'Angeline Stoll-Lillard, Montessori, une révolution pédagogique soutenue par la science. Je trouve que là j'ai ouvert plein de portes, et si vous voulez rentrer, creuser un peu tout ça, et ben son livre sera une parfaite réponse. Moi, de temps en temps, dans la formation Impact, enfin assez régulièrement, je fais quand même des ponts. Je partage des éléments de ce livre qui m'ont vraiment parlé. On y réfléchit ensemble. Enfin voilà, c'est un livre sur lequel je me suis quand même beaucoup appuyée pour créer la formation Impact. Mais en attendant la prochaine session qui démarrera que le 20 décembre, et ben rien ne vous empêche d'acheter ce livre et de plonger dedans. Je vous dis à la semaine prochaine, et j'espère que vous aurez des questions pour les prochains épisodes. À la semaine prochaine !